Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi kobena.
It's okay. You know, it's okay.
Nous sommes donc toujours dans la petite église baptiste qui s'appelle la paroisse Ebenezer à Atlanta, où la première partie de la série de services funèbres à la mémoire des Dr. King continue de se dérouler. Et c'est une scène très émouvante que nous vivons en ce moment. Le révérend Albanati, qui est le successeur du Dr. King, a demandé à Mrs. Merrily, celle que vous entendez en ce moment, d'accepter de chanter une dernière fois pour le Pasteur King. C'était du groupe vocal, du groupe de chanteurs, de la chorale de cette paroisse, la chanteuse ou la cantatrice que le Pasteur King préférait, dont il admirait beaucoup le talent et la foi en même temps. C'est elle qui chante maintenant un cantique devant une assistance absolument figée par l'émotion. Madame King suit la cérémonie, les yeux pratiquement toujours clos.
Le 9 avril 1968, la communauté noire a le blues. Les obsèques de Martin Luther King font la une des journaux et le désespoir se lit sur les visages des Noirs d'Amérique. Que de vies fauchées à cause d'une idéologie cruelle et infondée. À cette époque, les Blancs font la loi et les Noirs subissent. Dans ce troisième volet de notre série consacrée à la musique des droits civiques, nous allons vous emmener dans le sud profond des États-Unis, là où les nègres, comme on les appelait alors, n'avaient d'autre choix que de se taire ou de mourir. Nous nous sommes donc rendus dans plusieurs villes du Mississippi pour entendre le blues de cette population africaine-américaine maltraitée, humiliée, bâillonnée.
If your man gets personal, won't you have your fun? If your man gets personal, won't you have your fun? Best come on back to Fried Point, mama, and bail us all night long.
C'est au nord de Greenwood, dans le Mississippi, que nous avons été rechercher les racines culturelles du blues et du mouvement des droits civiques. Pour cela, nous avons suivi les pas de Sylvester Hoover. Ce monsieur est né en 1957. Il n'était qu'un enfant quand Martin Luther King fut assassiné, mais ce drame a forgé son engagement. Et depuis des décennies, il se fait un devoir de compter avec force détail la destinée de ses ancêtres en emmenant les journalistes et visiteurs de passage sur les différents lieux historiques du combat des Noirs. Il a d'abord tenu à nous faire découvrir le triste symbole du massacre de ses ancêtres, un cimetière où de rares stèles témoignent de la violence mortifère d'une époque particulièrement sombre.
From 1871 until late 60s or early 70, if you died.
De 1871 jusqu'à la fin des années 60, vous aviez toutes les chances d'être enterré ici. C'était le seul endroit où l'on acceptait d'inhumer les Noirs. Voilà pourquoi vous trouvez tant de tombes ici. Nous ne sommes d'ailleurs plus capables d'enterrer qui que ce soit car il n'y a plus de place. Tant de Noirs ont péri ici. L'un des plus célèbres repose à cet endroit précis. Il s'appelle Robert Johnson. Sa sépulture est devenue un lieu de pèlerinage. Ses nombreux fans viennent ici pour lui écrire des poèmes, jouer de la musique tout en fumant des cigarettes multicolores. Certains laissent des lettres d'amour, des photos, etc. Je nettoie cette stèle deux fois par semaine et malgré tout, je retrouve toujours quelque chose laissé par un admirateur. Dernièrement, j'ai retrouvé une bouteille de whisky qu'un amateur de blues avait dû apporter en hommage à Robert Johnson. Les gens se déplacent à n'importe quelle heure pour honorer sa mémoire. Certains viennent en pleine nuit, certains étudiants d'université organisent des concerts improvisés autour de sa tombe. C'est donc un endroit finalement très animé.
And nobody will complain. And that's what he used to do.
Mm-hmm.
Se recueillir sur la tombe de Robert Johnson est à la fois émouvant, instructif et quelque peu dérangeant, car arpenter ce lieu où la mort semble palpable est une expérience éprouvante. Cette première étape dans l'univers du blues n'était cependant qu'une introduction à une épopée douloureuse que Sylvester Hoover, notre guide, voulait nous dévoiler. Nous avons donc repris la route vers le quartier noir de Greenwood, où son récit s'est poursuivi.
Voilà à quoi ressemblaient les bicoques dans lesquelles vivaient les Noirs. Évidemment, il n'y avait pas de lumière. Il faisait froid, il n'y avait pas l'eau courante. Ces conditions ne pouvaient que leur donner le blues. Ces gens ne survivaient que sur le mince espoir d'être un jour libérés. N'oubliez pas que les lois dites Jim Crow étaient les seules reconnues par les tribunaux blancs. Aucun noir ne pouvait attaquer en justice un citoyen blanc. Les journées étaient terribles. Les noirs travaillaient sous l'oppression du maître blanc qui ne se privait pas de les insulter, de les frapper, de violer leurs femmes, de s'en prendre même aux enfants. Malheureusement, les noirs ne pouvaient pas répondre. Par conséquent, le soir, lorsqu'ils rentraient à la maison, ils chantaient leur malheur et leur espoir d'un jour meilleur. C'est ainsi qu'ils pouvaient faire face à la pression quotidienne. Vous remarquerez que les chanteurs de blues élèvent souvent la voix car ils sont irrités par leurs conditions de vie. Ce sont des gens frustrés qui devaient trouver un moyen de souffler un peu. Ils auraient aimé traiter l'oppresseur de trou du cul, mais ils ne s'y risquaient pas. Alors, ils chantaient. Je pense donc que le blues fait partie du mouvement des droits civiques, d'autant qu'il y avait des sens cachés dans les paroles des chansons. Ainsi, ils pouvaient communiquer sans que l'esclavagiste ne se rende compte de quoi que ce soit. Laissez-moi vous montrer autre chose. Voici l'un des fameux sacs utilisés par les Noirs pour récolter le coton. Il mesure presque 2 mètres. Une fois rempli, chacun des sacs pesait 90 kilos. Pendant des heures, que vous soyez jeune ou vieux, vous deviez traîner ces sacs dans les champs de coton. Les Noirs chantaient donc pour se donner du cœur à l'ouvrage. Tout le monde chantait dans les champs de coton, mais dès que le négrier arrivait, les noirs se contentaient de murmurer.
This is Emmett Till, a 14-year-old boy, full of life and joy. This is him dead, a horrified, disfigured body and head. His mother had an open coffin so the world could see what they did to him down in Mississippi. This is our legacy. This is what makes us strong. We came through the wilderness. Don't get your history wrong. Rosa Parks refused to give up her seat, and the civil rights movement was born. When they asked her why she refused, she said, "I thought of Emmett Till and I couldn't move."
Cette chanson du bluesman Mighty Mo Rogers évoque la tragédie du jeune Emmett Till, un gamin noir de 14 ans sauvagement battu à mort par deux Américains blancs à Monet, dans le Mississippi, en 1955. Sylvester Hoover nous a emmenés sur les lieux pour que nous ressentions l'horreur d'un tel crime.
This is Brass Grocery, and this were civil rights.
Vous êtes ici devant l'épicerie de Roy Bryans, là où le mouvement des droits civiques a véritablement débuté. C'est là que le jeune Emmett Till a été assassiné, 6 mois avant que Rosa Parks fasse la une des journaux en refusant de laisser sa place à un blanc dans un bus de Montgomery. Elle avait d'ailleurs précisé que le meurtre d'Emmett Till l'avait conduit à cette action de résistance. J'ai bien connu le cousin de Emmett Till, Wheeler Parker. Il m'a raconté que Emmett Till était entré dans le magasin pour acheter des bonbons. Quand il en est ressorti, il s'est assis sur un banc et a vu Caroline Bryant, une jeune et jolie femme blanche de 19 ans, épouse de Roy Bryant, qui l'aurait sifflé comme tout adolescent un peu insouciant et taquin. Rapidement, il s'est rendu compte de son erreur et s'est mis à courir jusqu'à la maison de ses grands-parents, qui étaient à 3 km. Là, il n'a pas dit un mot de ce qui s'était passé. Vers minuit, Roy Bryant et son demi-frère, John William Millam, sont entrés dans la maison alors qu'Emmett Till dormait profondément. Ils l'ont réveillé et il a su immédiatement ce qui allait lui arriver. Caroline Bryant était avec eux et a désigné Emmett Till comme son agresseur. Bryant et Millam ont demandé à Emmett Till de s'habiller car ils avaient décidé de l'emmener dans les bois pour le corriger. Évidemment, sa grand-mère s'y est opposée et leur a même proposé de l'argent pour qu'ils abandonnent leur projet macabre. Roy Bryant était sur le point d'accepter, mais son demi-frère a refusé. Il était déterminé à punir Emmett Till de la manière la plus radicale possible. Le grand-père, Mose Wright, a tenté lui aussi de s'opposer à Bryant et Millam. Roy Bryant lui a alors demandé « Quel âge as-tu, papy ?» Mose Wright a alors répondu « 64 ans ». Roy Bryant a ajouté « Si tu veux vivre jusqu'à 65 ans, tu ferais mieux de ne pas dire un mot de ce que tu as vu ce soir. » Ils ont donc emmené Emmett Till et l'ont battu à mort avant de jeter son corps dans la rivière. Ce n'est que 3 jours plus tard qu'un pêcheur a retrouvé le corps mutilé du jeune Emmett Till. Selon ses dires, il n'y avait plus de visage humain. Il ressemblait à un animal mort qui aurait été massacré par des prédateurs. Roy Bryant et John William Millam ont été arrêtés pour le meurtre d'Emmett Till, mais comme le jury n'était composé que de blancs, ils ont été acquittés car la juridiction du Mississippi ne condamnait pas l'assassinat de citoyens noirs. La mère d'Emmett Till a rapatrié le corps de son fils à Chicago, et c'est là qu'un journaliste de Jet Magazine a pris cette photo effroyable d'un jeune gamin de 14 ans totalement méconnaissable. Dès lors, le monde entier apprenait la manière dont on traitait les Noirs dans le delta du Mississippi. Cela a changé le cours de l'histoire et la manière dont les Blancs se comportaient ici, dans le Sud.
Let them see. Giving a gruesome, unforgettable face to the horror of institutional racism in the world. 67 minutes of feigned deliberations to acquit 2 of the apparent killers. Let them see. Images that replayed in the mind of youth and adults around the world. Images that played in the mind of a young Rosa Parks as she sat down, stood up by sitting down on a Montgomery, Alabama bus.
And this sign, man, it's been vandalized.
Ce marqueur, qui identifie la date du 28 août 1955, lorsque le jeune Emmett Till a été assassiné, a été vandalisé plus d'une fois. Nous venons d'en installer un nouveau pour que cet événement ne disparaisse pas dans les oubliettes de l'histoire. Autrefois, je venais ici la nuit avec des visiteurs pour leur montrer l'endroit où a eu lieu le meurtre. Je ne le fais plus car des gens nous tirent dessus quand nous cherchons à raconter la vérité. Quand la nuit tombe, j'évite de venir ici. Cela devient trop dangereux. Il y a encore des Blancs toujours prêts à museler la réalité, mais moi, je ne mens pas. Il y a des jeunes Blancs qui devraient s'instruire. Ils sont incapables d'entendre notre récit. Curieusement, mes petits-enfants sont beaucoup plus ouverts. Peut-être les avons-nous éduqués avec d'autres valeurs. Tout ça pour vous dire que je ne viens plus ici quand la nuit tombe. C'est bien trop dangereux. Peut-être parviendrons-nous un jour à faire évoluer les consciences, mais pour cela, il faudrait que tous ces Blancs racistes apprennent ce qu'est l'amour. Peut-être alors, nous surmonterons nos différences. On ne peut pas se satisfaire d'un conflit constant entre Blancs et Noirs. J'espère donc que les choses s'arrangeront.
Was down in Mississippi not so long ago, when a young boy from Chicago town walked in a southern door. This boy's fateful tragedy you should all remember well. The color of his skin was black, and his name was Emmett Till.
Si quelques rares musiciens blancs comme Bob Dylan se sont indignés de l'assassinat du jeune Emmett Till, c'est évidemment dans le blues noir que l'on perçoit la douleur et l'aigreur d'une communauté martyrisée. Il nous fallait donc nous plonger davantage dans cette culture musicale africaine-américaine. Nous avons alors pris la direction de Clarksdale, dans le Mississippi, la ville du légendaire John Lee Hooker, où nous avons rencontré Roger Stoll, organisateur de festivals, producteur de documentaires et propriétaire d'un magasin de disques où il nous a accueillis avec chaleur et enthousiasme.
This is Roger Stoll at Cathead. Well, thank you for visiting Clarksdale. When I get tourists to come in, and hopefully you'll be a tourist at some point, visit Clarksdale.
Lorsque des touristes entrent dans ce magasin, je leur demande immédiatement quel type de musique ils écoutent. S'ils sont fans de soul, j'essaierai d'orienter leur choix vers ce type de musique. S'ils sont fans de rock and roll, je leur trouverai un disque de blues rock. S'ils n'ont pas d'idée préconçue, j'ai deux options. Soit je les dirige vers la porte de sortie, soit je leur conseille un disque qui ne sera pas qu'un souvenir d'une visite à Clarksdale. Je veux que ce disque les épate et les fasse entrer dans l'univers du blues. Je veux qu'ils s'enthousiasment pour Robert Johnson, Son House, Hollywood Wolf, Muddy Waters, Elmo James. Quand je sens qu'ils ne sont pas réceptifs, je me contente de leur conseiller une compilation. Et là encore, je leur donne le choix entre la musique des années 30, le Delta Blues acoustique d'avant-guerre, ou la musique des années 50 et 60, c'est-à-dire les disques édités par Chess Records, ou encore du blues moderne, issu de productions parues dans la dernière décennie. En règle générale, j'essaie de ne pas les brusquer et de leur proposer d'abord une musique qui les rassure.
Sometimes you got to start them something that's a little safer.
Donc imaginons que je sois un client, que j'arrive chez vous et je vous dis j'aime le blues du Mississippi mais celui des pionniers. Qu'est-ce que vous me feriez écouter en priorité?
Pour moi, le dieu de cette époque, c'est évidemment Charlie Patton. Mais attendez-vous à entendre quelques craquements, puisque ce sont des enregistrements historiques et les techniques de prise de son étaient très rudimentaires. Paramount, qui était le label sur lequel il enregistrait ses premiers disques, a tenté des années plus tard de retravailler le son. Mais je considère qu'il est plus intéressant d'entendre la tonalité d'origine. Entendre les craquements est une manière de nous replonger dans l'histoire. Voici donc Charlie Patton, qui est né à Bolton dans le Mississippi dans les années 1880-1890. Sa date de naissance n'a jamais été précisée. Il a fini ses jours tout près d'ici, mais il a principalement vécu à Cleveland, Mississippi, dans les Dockery Plantations. Il a été une influence majeure pour des gens comme Pop Staples, Howlin' Wolf, Booker White. Il jouait sur une guitare slide plutôt archaïque. C'est le premier instrumentiste à avoir joué de la guitare en la maintenant derrière sa tête ou entre les jambes. Il savait faire le show bien avant Jimi Hendrix. C'était aussi un personnage qui aimait les bagarres. Il n'enregistrait que des chansons en 78 tours car les albums n'existaient pas à l'époque. Tous ces titres ont donc été réunis dans un coffret 3 CD qui était plutôt bien remasterisé. Excusez le désordre, je ne suis pas très organisé. Si le titre déraille pendant l'écoute, ce n'est pas à cause du CD, mais plutôt de mon lecteur. Voici donc la compilation dite définitive de Charlie Patton.
So this is Tom Russian Blues. Tom Russian was a sheriff that arrested Charlie Patton.
Voici Tom Russian Blues. Tom Russian était un shérif qui a arrêté Charlie Patton et l'a mis en prison. Et quelle est la réaction d'un bluesman dans ce genre de circonstances? Il écrit une chanson à ce sujet.
Est-ce que ces musiciens étaient des militants ou juste racontaient-ils leur vie quotidienne?
Je ne pense pas que tous ces gens avaient le luxe de pouvoir militer. Je trouve qu'il était malgré tout assez gonflé de la part d'un bluesman à cette époque de composer une chanson sur un shérif qui venait de l'arrêter. C'était plutôt risqué.
Merci beaucoup, Roger Stoll.
Ah, well, thank you very much. You guys enjoy your visit to Clarksdale.
Pour
Pouvoir écouter aujourd'hui tous ces échos du passé est un privilège, car ils témoignent d'une aventure humaine effroyable dont il faut continuer à parler, tant le danger d'un retour aux réflexes racistes est un enjeu du quotidien. Encore faut-il conserver précieusement ce patrimoine sonore. C'est ce que s'emploie à faire Greg Johnson, conservateur des archives blues à l'université d'Oxford dans le Mississippi et professeur associé à l'histoire africaine-américaine. Nous voulions évidemment tout savoir des trésors qu'il classe, répertorie, restaure chaque jour. Nous sommes donc allés lui poser la question.
Well, we have, so, can tell you exactly, we have over 70,000 sound recordings.
Pour être précis, nous devons avoir 70 000 enregistrements historiques ici à Oxford. Cela comprend évidemment des 78 tours, des 33 tours, des 45 tours, des cassettes, des bandes magnétiques, des enregistrements sur cylindre pour les vieux phonographes. Nous avons près de 100 000 photos ainsi que leurs négatifs. Nous avons beaucoup de films également. Il doit y avoir 5 ou 6 000 livres disponibles à l'université. Évidemment, des magazines, des articles de presse, et tout cela nous vient du monde entier. Par exemple, nous avons quelques exemplaires du magazine Soulbag, qui est un journal français, si je ne dis pas de bêtises. L'une des plus prestigieuses donations est celle de B.B. King. Il nous a confié en 1993 tout ce qu'il avait enregistré durant sa carrière. Il devait y avoir plus de 10 000 titres. Il y a même des documents audio où on l'entend apprendre le français. On l'entend précisément dire « Merci, au revoir ». En fait, j'ai compris qu'il cherchait à connaître des mots-clés dans différentes langues pour pouvoir s'adresser au public à travers le monde.
What I'd like to say to you and your audience and my Mississippi accent of my one word in French, merci beaucoup.
Et est-ce que vous nous feriez écouter quelques-uns des trésors que vous avez dans vos archives ?
Oui, nous pourrions en effet vous faire entendre quelques archives, mais en raison de la législation sur les droits d'auteur américains, vous ne pouvez diffuser que des œuvres enregistrées avant 1923, qui sont désormais dans le domaine public. Comme les premiers enregistrements de musiciens blues ont commencé en 1920, cela vous laisse une marge assez mince pour illustrer notre propos. Beaucoup de gens pensent que les enregistrements de Robert Johnson sont désormais disponibles sans payer de droits. C'est faux. Il a enregistré ses chansons dans les années 30. Elles ne sont donc toujours pas disponibles gratuitement pour une diffusion radio. Cependant, je pourrais peut-être vous faire écouter un titre de Mammy Smith intitulé Crazy Blues, enregistré en 1920. Cette chanson est intéressante parce qu'elle illustre ce qu'on appelait la race music. L'industrie du disque utilisait ce terme pour parler des enregistrements réalisés par des Noirs. À l'époque, personne n'imaginait qu'il y avait un marché pour les artistes noirs. Et pourtant, ce disque a été vendu à plusieurs milliers d'exemplaires. Un album de blues pouvait atteindre des records de vente totalement inattendus, de 75 000 à 1 million d'exemplaires. En moyenne, 100 000 exemplaires d'un album de blues trouvaient acheteurs. Tout ça pour vous dire qu'après le succès de Mammy Smith, la musique africaine-américaine a représenté un marché discographique non négligeable. J'ai donc numérisé le titre de Mammy Smith que je vous propose d'écouter. Allons-y.
So we have we can listen to a digital copy of that certainly. Yeah, we can do it. That's easy. Just follow me and I'll set that up. So I am looking through one of our servers where we have.
Je suis donc en train de sélectionner sur l'un de nos serveurs le fichier audio de Mammy Smith.
Stored on one of our servers. So this is what I'm going to be pulling up is Mammy Smith's Crazy Blues.
Voici Crazy Blues, enregistré en 1920. Let's see.
Donc cette archive-là, vous l'avez transférée en digital, en numérique, ça veut dire qu'elle était sur quel support à l'origine ?
This was a 78 RPM disc.
À l'origine, il s'agissait d'un 78 tours. Certains disques ont tellement été utilisés qu'il y a des craquements et des grésillements assez importants, ce qui rend le signal sonore très faible et plutôt médiocre. Par conséquent, je fais d'abord une copie de l'original avant de le traiter et j'essaye de supprimer toutes les interférences sonores non essentielles. Par contre, nous ne touchons jamais à l'œuvre originale. Elle doit rester en l'état avec ses défauts et ses qualités. J'utilise même parfois une platine vinyle avec un laser à la place du diamant habituellement utilisé. Ainsi, nous ne touchons pas physiquement au disque original. Nous ne faisons que restituer le son que le faisceau laser parvient à lire.
So, yeah, we have different ways of getting that data. Et à cette époque, évidemment, on ne pouvait pas faire des titres très longs parce qu'il y avait la difficulté des techniques d'enregistrement.
Exactement. Sur un 78 tours, vous ne pouviez enregistrer que 3 minutes de musique par face. Je connais des musiciens qui respectent à la lettre la durée d'origine lorsqu'ils interprètent ces œuvres d'autrefois. Je trouve ça stupide car quand Blind Blake se produisait sur scène, il n'avait pas les contraintes du studio et devait nécessairement se lâcher sur scène et interpréter beaucoup plus longuement certaines de ses chansons. Je trouve dommage que l'on se prive de se lancer dans un long solo parce que l'artiste original ne l'avait pas enregistré sur disque. Il n'avait seulement pas le temps de pouvoir enregistrer un solo. Qui nous dit que ces pionniers du blues ne jouaient pas 10 minutes de plus sur scène pour chacune de leurs chansons? Qui sait? Vous remarquerez que la fin de la chanson est plutôt abrupte. L'ingénieur du son n'avait pas d'autre choix que de dire « Ok, c'est bon ».
Merci beaucoup, Greg Johnson.
Oh, you're very welcome. It was a pleasure talking to you.
Il est heureux de pouvoir entendre aujourd'hui des enregistrements réalisés il y a près d'un siècle. Ils illustrent mieux que des mots ou des discours la vie misérable des Noirs d'Amérique à une époque où l'on ne parlait même pas de droits civiques. La semaine prochaine, nous poursuivrons logiquement notre périple historique au cœur du Mississippi en nous rendant notamment sur les Dockery Plantation, où, dit-on, le blues vit le jour. Nous entendrons le récit poignant d'autres survivants, résistants, militants, partisans et sympathisants du combat social et racial 50 ans après la mort de Martin Luther King. Nous tenons d'ailleurs à remercier ici tous ceux qui nous ont facilité la tâche dans le sud des États-Unis, dont Visit Mississippi et Memphis Travel, ainsi que American Airlines et Equinoxial, sans qui nous n'aurions pas traversé l'Atlantique. Merci à Christophe Paget, Christophe Champin et Vladimir Cagnolari, les voix françaises de cette épopée africaine-américaine, et mes compliments à Nathalie Laporte pour la subtile réalisation de cette émission. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans 30 secondes, le journal.